Panchatantra, livre troisième, La guerre des corbeaux et des hiboux, dans la traduction d'Édouard Lancereau. À mon avis, écrit par Chanakya, fin IVe, début IIIe siècle avant notre ère. Ici commence le troisième livre, intitulé La guerre des corbeaux et des hiboux. En voici le premier shloka. Qu'on ne se fie pas à un ennemi précédemment combattu, même quand il est devenu ami. Vois la caverne pleine de hiboux consumés par le feu qui mire les corbeaux. On raconte ce qui suit. Les corbeaux et les hiboux. Il est dans la contrée du sud une ville appelée Malaïropia. Il y avait près de cette ville un figuier garni de beaucoup de branches et couvert d'un feuillage très épais. Et là habitait un roi des corbeaux, nommé Meghavarna, avec une nombreuse suite de corbeaux. Il y avait construit une forteresse et y passait le temps avec ses serviteurs. De même habitait aussi dans une caverne de montagne qui lui servait de forteresse un roi des hiboux, nommé Harimardana, avec une suite innombrable de hiboux. Et il venait la nuit et rôdait toujours tout autour du figuier. Le roi des hiboux, dominé par une vieille inimitié, tuait tout corbeau qui l'attrapait et s'en allait. De cette façon, par ses attaques continuelles, il dépeupla peu à peu entièrement de corbeaux la forteresse de ce figuier. Et certes, il en arrive ainsi, car on dit « Celui qui est indolent et ne fait pas attention à son ennemi et à une maladie qui s'étend à volonté, en devient peu à peu la victime. » Et ainsi, celui qui ne détruit pas un ennemi et une maladie dès qu'il se montre, quelque fort qu'il soit, en devient plus tard la victime. Mais un jour, le roi des corbeaux convoqua tous les ministres corbeaux et dit « Eh ! Notre fier et persévérant ennemi vient toujours à l'approche de la nuit, pareil au dieu de la mort, et détruit notre race. Comment donc lui résister ? Nous ne voyons certes pas pendant la nuit, et le jour, nous ne découvrons pas sa forteresse pour y aller et l'attaquer. Dans cette situation, lequel de ces moyens convient-il donc d'employer? La paix? La guerre? La marche? La défensive? Le recours à une protection? Ou la duplicité? Réfléchissez à cela et dites vite. Alors ils dirent « Sa Majesté a bien parlé en faisant cette question. » Et l'on dit: même sans être questionné, un ministre doit dire ici-bas quelque chose. Mais quand il est questionné, il doit dire ce qui est vrai et bon, que cela plaise ou ne plaise pas. Celui qui, lorsqu'on le questionne, ne donne pas un bon avis dont le résultat cause de la satisfaction, celui-là, quand bien même il est bon conseiller et agréable parleur, n'est regardé que comme un ennemi. En conséquence, il faut nous retirer à part et délibérer, ô roi, afin de prendre là-dessus une décision et aussi d'agir. » Puis Meghavarna se mit à questionner un à un ses cinq ministres héréditaires, nommés Ujjivin, Sanjivin, Anujjivin, Prajivin et Chirajivin. Il questionna donc d'abord Ujjivin. Mon cher, dans cette situation, que penses-tu ? Roi, dit celui-ci, avec celui qui est fort, il ne faut pas faire la guerre. Il est fort et il attaque au moment favorable. Car on dit, la prospérité ne s'éloigne pas de ceux qui s'inclinent devant le plus fort et qui attaquent au moment favorable, de même que les rivières ne rétrogradent pas. Et ainsi, il faut abandonner celui qui est honnête et respectable. Celui qui a quantité de frères, qui est fort et a remporté beaucoup de victoires, est un ennemi avec qui on doit faire la paix. Il faut faire la paix même avec le méchant, si l'on voit risque de la vie, car lorsque la vie est sauvée, tout est sauvé. Comme il a été vainqueur dans beaucoup de batailles, à cause de cela surtout il faut faire la paix avec lui. Et l'on dit, quand celui qui a été vainqueur dans beaucoup de batailles fait alliance avec un autre, ce dernier, par la force de celui-là, soumet promptement ses ennemis. Il faut désirer la paix même avec un égal. La victoire dans la bataille est douteuse. Et l'on ne doit rien faire qui offre des risques. Adivriaspati. La victoire dans la bataille est douteuse pour les hommes qui combattent ici-bas. Par conséquent, il ne faut combattre qu'après avoir eu recours au troisième moyen. Celui qui par orgueil ne fait pas la paix et qui a été plus d'une fois battu même par son égal est comme un pot de terre non cuite qui se heurte contre un autre. Il cause la perte de tous deux. Combattre avec le fort cause la mort au faible. Comme une pierre qui a brisé un pot, le fort reste debout. Et en outre, terre, amis et or sont les trois fruits de la guerre. S'il n'y a pas une seule de ces choses, il ne faut pas faire la guerre. En fouillant un trou de rat plein de fragments de pierre, le lion brise ses griffes ou a pour profit un rat. Aussi, là où il n'y a pas de profit, mais seulement une guerre nuisible, il ne faut pas soi-même engendrer la guerre ni la faire en aucune façon. Attaqué par un plus fort, que l'on fasse comme le roseau, si l'on désire une prospérité qui ne tombe pas, mais qu'on ne fasse jamais comme le serpent. Car celui qui fait comme le roseau parvient à un grand bonheur. Celui qui fait comme le serpent ne mérite que la mort. Que le sage se resserre comme la tortue et supporte même les coups. Mais lorsque le moment est venu, qu'il se dresse comme un serpent noir. Quand on est tombé dans une guerre survenue, qu'on y mette fin par la conciliation. Comme la victoire est inconstante, qu'on ne s'élance pas avec précipitation. Et ainsi, il n'y a pas d'exemple qui prouve qu'on doive combattre avec celui qui est fort, car le nuage ne vient jamais contre le vent. Ujjivin conseilla ainsi la conciliation et la paix. Mais après avoir entendu cela, le roi dit à Sanjivin « Mon cher, je désire entendre aussi ton avis. »« Majesté, dit celui-ci, il ne me semble pas bon que l'on fasse la paix avec un ennemi, car on dit « Avec un ennemi, il ne faut pas conclure l'alliance même la plus étroite. L'eau, même très chaude, éteint le feu. » Et en outre, il est cruel, excessivement avide et injuste. Par conséquent, vous devez surtout ne pas faire la paix avec lui, car on dit « Il ne faut nullement faire alliance avec celui qui n'a ni loyauté ni justice, même étroitement unis, il change bientôt de disposition par l'effet de sa méchanceté. À cause de cela, il faut faire la guerre avec lui. C'est mon avis. Car on dit, un ennemi cruel, avide, indolent, déloyal, négligent, craintif, léger, sot et dédaignant de combattre, est facile à détruire. De plus, nous avons été maltraités par lui. Si donc nous parlons de paix, il n'en montrera encore que plus de fureur. Et l'on dit, avec un ennemi contre lequel on doit employer le quatrième moyen, la conciliation est un tort. Quel est le sage qui verse de l'eau sur quelqu'un atteint d'une fièvre accompagnée de transpiration? Les paroles de conciliation enflamment au contraire un ennemi furieux, comme des gouttes d'eau jetées vivement dans du beurre ardent. Et dire que l'ennemi est fort, cela n'a pas non plus de raison, car on dit « Un faible qui a du courage et de l'énergie tue un ennemi qui est fort, de même que le lion obtient l'empire sur l'éléphant. » Il faut détruire par la ruse les ennemis qu'on ne peut détruire par la force. Comme Bhima, sous la forme d'une femme, tua les Kichaka. Et ainsi, les ennemis se soumettent à un roi impitoyable comme au dieu de la mort, car les ennemis estiment pareil à un brin d'herbe un souverain compatissant. Celui qui par sa force ne détruit pas une force puissante, à quoi est-il bon, cet être né inutilement, ce ravisseur de la jeunesse de sa mère? La fortune qui n'a pas les membres barbouillés du safran du sang de l'ennemi, quelque belle qu'elle soit, ne donne pas la joie du cœur à ceux qui sont intelligents. Quel éloge mérite la vie du souverain dont le territoire n'est pas arrosé du sang des ennemis et des larmes de leurs femmes? Sanjivine conseilla ainsi la guerre. Mais après avoir entendu cela, le roi questionna Anujivine. « Mon cher, toi aussi, fais connaître ton avis. »« Majesté, » dit celui-ci, ce méchant est excessivement fort et pervers. Par conséquent, avec lui, la paix et la guerre ne sont pas bonnes. La marche seule conviendrait, car on dit, avec celui qui est fier de sa force, méchant et pervers, ce n'est ni la paix ni la guerre, mais seulement la marche que l'on approuve. Il y a deux sortes de marches. L'une est la défense de celui qui a peur. L'autre est la marche de celui qui veut vaincre et s'appelle attaque. C'est en Kartika ou en Chaitra et non à une autre époque que l'on approuve pour celui qui veut vaincre et qui est très brave la marche dans le pays de l'ennemi. Toutes les saisons sont bonnes pour donner l'attaque, quand l'ennemi est dans le malheur et a des côtés faibles. Après avoir mis sa ville en bon état de défense avec des braves fidèles et très forts, qu'il aille ensuite dans le pays de l'ennemi, auparavant sondé par des espions. Celui qui, sans connaître d'approvisionnement, d'armées alliées, d'eau et d'herbe, va dans le pays de l'ennemi, ne revient plus dans son propre pays. En conséquence, il est convenable pour vous de faire retraite. De plus, ni guerre ni paix avec ce méchant qui est fort. D'ailleurs, les sages font retraite en considération d'un motif particulier. Car on dit, si le bélier recule, c'est pour attaquer. Le lion même se contracte de colère pour s'élancer. Renfermant l'inimitié dans leur cœur et délibérant en secret, les sages, quand ils méditent quelque chose, supportent tout. Et en outre, celui qui, à la vue d'un ennemi fort, quitte son pays, celui-là, s'il vit, redevient possesseur de la terre comme Yudhishthira. Le faible qui montre de l'orgueil et combat avec un plus fort accomplit le désir de celui-ci et la ruine de sa propre famille. Par conséquent, lorsqu'on est attaqué par un fort, c'est le moment de la retraite, et non de la peine ni de la guerre. Anujivin conseilla ainsi la retraite. Mais après avoir entendu ces paroles, le roi dit à Pradjivin : Mon cher, toi aussi, dis ton avis. Majesté, répliqua celui-ci, la paix, la guerre, la marche, toutes trois, ne me semblent pas à propos, et la défensive principalement me paraît bonne, car on dit : Le crocodile, quand il a atteint sa demeure, dompte un gros éléphant même. Écarté de sa demeure, il est vaincu même par un chien. Et en outre, celui qui est attaqué par un fort, qu'il ait soin de rester dans une forteresse, qu'il y demeure et qu'il appelle ses alliés pour qu'il le délivre. L'homme qui, en apprenant l'arrivée de l'ennemi, a le cœur saisi de crainte et abandonne sa demeure, n'y habite plus de nouveau. Comme un serpent qui n'a pas de dents et un éléphant qui n'a pas d'exudation de rut, ainsi un roi qui est sans demeure est facile à atteindre pour tout le monde. Un seul homme, même s'il reste à sa place, peut combattre contre cent. Aussi, quand même les ennemis sont forts, qu'il n'abandonne pas sa place. Fais donc une citadelle forte, garnie de bons guerriers et d'une armée alliée, entourée de murs et de fossés, et munie d'armes et d'autres choses. Reste toujours au milieu de cette forteresse, résolu à combattre. Si tu vis, tu obtiendras l'extrémité de la terre, ou si tu meurs, tu iras au ciel. Et en outre, les faibles mêmes, réunis en un seul lieu, ne sont pas tués par celui qui est fort, de même que les plantes serrées les unes contre les autres ne sont pas renversées par un vent contraire. Un arbre isolé, quoique grand, solidement planté de tous les côtés, peut être renversé violemment par le vent. Mais les arbres qui sont rassemblés, solidement plantés de tous les côtés, ne sont pas abattus par un vent impétueux, parce qu'ils sont réunis en un seul lieu. Ainsi les ennemis regardent un seul homme, quand même il a de la bravoure, comme aisé à vaincre, et lui font du mal ensuite. La vie de Pradjivin fut ainsi ce qu'on appelle la défensive. Après avoir entendu cela, le roi dit à Chiradjivin : Mon cher, toi aussi, dis ton avis. Majesté, dit celui-ci, entre les six moyens, le recours à une protection me semble le meilleur. Il faut donc employer ce moyen, car on dit : Sans aide, quoique puissant, que fera celui qui est fort ? Quand il n'y a pas de vent, le feu qui brûle s'éteint de lui-même. L'union est la meilleure chose pour les hommes, et surtout avec un ami. Privés de leur pellicule, les grains de riz ne poussent pas. Par conséquent, il faut que vous restiez ici, et que vous recherchiez la protection de quelque fort qui apporte remède à votre malheur. Mais si vous quittez votre demeure, et si vous vous en allez ailleurs, alors personne ne vous prêtera assistance, même seulement avec une parole. Car on dit : Le vent est le compagnon du feu qui brûle les forêts, et il éteint une lampe. Qui a de l'amitié pour le faible ? Cependant, il n'est pas absolument nécessaire que l'on cherche la protection d'un fort seulement. La protection des faibles même est une sauvegarde. Car on dit : Comme un bambou réuni avec d'autres, bien serré, entouré de bambous, ne peut être brisé. Ainsi en est-il d'un roi même faible. Mais si l'on a la protection du plus grand, alors que dire ? et l'on dit « Pour qui l'union avec un grand homme n'est-elle pas une cause d'élévation ? Sur une feuille de lotus, l'eau acquiert l'éclat de la perle. » Ainsi, excepté le recours à une protection, il n'y a aucun remède. Il faut donc chercher une protection. C'est mon avis. Tel fut le conseil de Tiradjivin. Mais après qu'on eut ainsi parlé, Meghavarna s'inclina devant l'ancien ministre de son père, nommé Tiradjivin, lequel était vieux et avait lu tous les ouvrages de politique. Et il lui dit « Père, si j'ai interrogé ceci jusqu'à présent, bien que tu sois ici, c'est pour examiner la question, afin que, ayant tout entendu, tu dises ce qu'il convient de faire. Indique-moi donc ce qui est convenable. » « Mon enfant, dit celui-ci, tous ces ministres ont parlé d'après les traités de politique. Tout cela est bon quand c'est approprié à son temps. Mais c'est le moment de la duplicité. Car on dit qu'on se tienne toujours avec défiance, en paix comme en guerre, et qu'on ait recours à la duplicité contre un ennemi méchant et très fort. Ainsi l'ennemi est facilement détruit par ceux dont il se défie, s'ils excitent sa cupidité et lui inspirent de la confiance. Et l'on dit, les sages fortifient quelquefois l'ennemi même qu'ils veulent faire périr. Augmenté par la mélasse, le flegme est aisément détruit par cet accroissement. Et ainsi, l'homme qui est franc envers les femmes, un ennemi, un mauvais ami, et surtout envers les prostituées, ne vit pas. Envers les dieux, les brahmanes et envers son précepteur spirituel aussi, il faut agir avec franchise. Avec le reste, il faut avoir recours à la duplicité. La franchise est toujours excellente chez les ascètes qui se livrent à la méditation, mais pas chez les gens qui désirent la fortune, ni surtout chez les rois. Si donc vous avez recours à la duplicité, cela ira bien pour vous. L'ennemi adonné à la cupidité ne vous chassera pas. Au reste, si vous voyez en lui quelque côté faible, vous irez et vous le tuerez. « Père, dit Meghavarna, je ne connais pas sa retraite. Comment donc reconnaîtrai-je son côté faible ?»« Mon enfant, répondis-je Tiradjivin, je découvrirai non seulement sa demeure, mais aussi son côté faible, au moyen d'espions. » Et l'on dit, les vages voient par l'odeur, les brahmanes voient par les Védas, les rois voient par les espions, les autres hommes par les yeux. Et l'on dit ainsi à ce sujet, un roi qui par des espions secrets connaît les familiers de son côté à lui et surtout du côté de l'ennemi, n'éprouve pas d'infortune. « Père, dit Meghavarna, qu'appelle-t-on familier, et quel en est le nombre, et de quelle sorte sont les espions secrets? Apprends-moi tout cela. » Tiradjivin répondit, « À ce sujet, le vénérable Narada a dit au roi Yudhishthira, « Du côté de l'ennemi, il y a 18 familiers, de son côté à soi, 15. Il faut connaître chacun d'eux au moyen de 3 espions secrets. Quand on les connaît, on est maître de son côté à soi et du côté de l'ennemi. » Et le sage Narada a dit à ce sujet à Yudhishthira, « Connais-tu, oui ou non, chacun des 3 espions inconnus, les 18 familiers chez les autres et les 15 de ton côté à toi ?» Par le mot « familier », on désigne ici celui qui est chargé d'une fonction. Si donc un de ces familiers est méprisable, alors il cause la perte du souverain. Et s'il est excellent, alors il sert à l'élévation du roi. c'est à savoir du côté de l'ennemi. Le ministre, le prêtre de la famille, le général, le prince royal, le portier, l'intendant du gynécée, celui qui donne les ordres, celui qui organise les réunions, celui qui place, celui qui indique, celui qui conduit, le compagnon, le surintendant des chevaux, le surintendant des éléphants, le surintendant du trésor, le gouverneur de la forteresse, le serviteur favori et le garde des forêts. Par leur trahison, on vient bientôt à bout de l'ennemi. Et de son côté à soi, c'est à savoir la reine-mère, la reine, le serviteur du gynécée, le jardinier, le garde du lit, le surintendant des espions, l'astrologue, le médecin, celui qui porte l'eau, le porteur de bétel, le précepteur, le garde du corps, le quartier-maître, le porte-parasol et la courtisane. Par le moyen de leur inimitié, on a la ruine de son côté à soi. Et par conséquent, le médecin, l'astrologue et le précepteur sont les meilleurs espions de son côté à soi. De même que les montreurs de serpents et les hommes ivres savent tout chez les ennemis. Père, dit Megavarna, pour quel motif existe-t-il une si mortelle inimitié entre tous les corbeaux et les hiboux? Mon enfant, répondit Stiradjivin, un jour jadis tous les oiseaux, cygnes, grues, perroquets, coquillas, paons, tchataka, hibou, pigeon, colombe, perdrix francoline, jais bleu, vautour, alouette, karaïka, siama, grimpro, pushkara et autres s'assemblèrent et se mirent à délibérer avec inquiétude. Ah, le fils de Vinata est pourtant notre roi et attaché à Vasudeva. Il n'a aucun souci de nous. Par conséquent, à quoi bon ce souverain inutile qui ne nous protège pas, nous qui sommes inquiétés par les filets des chasseurs et par d'autres malheurs? Car on dit, on doit servir seulement quiconque renouvelle sans trouble tout ce qui périt, comme fait le soleil à la lune. Mais tout autre souverain ne l'est que de nom. Et l'on dit, même par les serviteurs honnêtes et sans bassesse, qui ont, comme les poissons, des yeux aussi lumineux que ceux des dieux, un roi stupide est promptement conduit à sa perte. Celui qui ne protège pas les créatures tremblantes de peur est toujours tourmenté par les ennemis et sans aucun doute sous la forme d'un roi, le dieu de la mort. Que l'homme sage abandonne comme un bateau brisé sur l'eau un précepteur spirituel qui n'explique pas, un prêtre de famille qui n'étudie pas, un roi qui ne protège pas, une épouse qui parle durement, un vacher qui aime le village et un barbier qui aime la forêt. Réfléchissons à cela et faisons roi des oiseaux quelque autre volatile. Ensuite, ils dirent tous, en regardant un hibou qui avait de belles formes, que ce hibou soit notre roi, que l'on apporte donc toutes les choses essentielles et convenables pour le sacre des rois. Puis après que de l'eau de différents lieux saints eût été apportée, qu'une quantité de 108 racines, Chakrankita, Sahadevi et autres eût été amassée, qu'un trône eût été dressé, qu'un globe de la terre eût été fait, sur lequel étaient peintes les mers et les montagnes des sept îles, après qu'une peau de tigre eût été étendue, que des vases d'or eurent été remplis de 5 rameaux, de fleurs et de grains, que les objets d'heureux présages, miroirs, etc. eurent été apprêtés, tandis que les brahmanes les plus versés dans la pratique des Védas, les premiers entre les chanteurs de louanges récitaient continuellement, que des jeunes filles chantaient les principaux chants de bénédiction, après qu'un plat de grains composé de moutarde blanche, de grains frits, de gorochana et orné de fleurs, de coquillages, etc. eût été préalablement préparé, lorsque la purification des armes et autres cérémonies furent accomplies, pendant que les instruments qui annoncent le bonheur résonnaient, au moment où le hibou, pour être sacré, s'asseyait sur le trône dressé au milieu d'un portique orné de bouses de vache et autre chose, un corbeau, annonçant son entrée par un horrible croassement, vint de quelque part dans l'assemblée. « Ah ! Pensa-t-il, que signifie cette grande fête dans laquelle sont réunis tous les oiseaux ?» Les oiseaux, quand ils le virent, se dirent entre eux « Ah ! Voilà le plus adroit des oiseaux, le corbeau qui se fait entendre !» Et l'on dit « Parmi les hommes, le barbier est rusé, parmi les oiseaux, le corbeau, parmi les animaux qui ont des dents, le chacal, et parmi les insectes, le mendiant blanc. » Il faut donc prendre aussi son avis. Et l'on dit, les plans de conduite médités de beaucoup de manières, avec beaucoup de sages, et bien pesés et examinés ne se perdent en aucune façon. Le corbeau s'approcha et leur dit, Eh ! Que signifie cette nombreuse réunion de monde et cette grande fête extraordinaire ? Eh ! Dirent les oiseaux, il n'y a pas de roi des oiseaux. En conséquence, tous les oiseaux sont en train de sacrer ce hibou roi de tous les volatiles. Donne donc aussi ton avis. Tu es arrivé à propos. Mais le corbeau dit en riant, Ah ! Cela n'est pas convenable que quand il existe des oiseaux éminents, le paon, le cygne, le coquila, le chakravaka, le perroquet, le canard, le haritaka, le sarasa et autres, on sacre ce hibou au hideux visage. Aussi ce n'est pas mon avis. Car, nez crochu, yeux de travers, air méchant et désagréable, tel est son visage quand il n'est pas en colère. Comment est ce visage lorsqu'il est en fureur? Si nous faisons roi le hibou, affreux par nature, très cruel, méchant et désagréable, quelle prospérité aurons-nous? D'ailleurs, quand le fils de Vinata est notre souverain, pourquoi ce hibou est-il fait roi? Eût-il même des qualités néanmoins, puisque nous avons un souverain, il ne serait pas bon d'en faire encore un autre? Car on dit, un seul et puissant roi est une cause de bien pour la terre. De même qu'à la fin d'un âge, beaucoup de soleils causent ici-bas du malheur. Et puis, par le nom seul de ce souverain, vous deviendrez invincible pour les ennemis. Et l'on dit, en se servant seulement du nom de ceux qui sont éminents, et en se faisant un maître, ceux qui sont abjects ont le bonheur devant eux à l'instant même. Et ainsi, par le nom des grands, on arrive au comble de la prospérité. Au moyen du nom de la lune, les lièvres vécurent heureux dans leur demeure. « Comment cela ? » demandèrent les oiseaux. Le corbeau raconta alors. Les éléphants et les lièvres. Dans un endroit d'une forêt habitait un grand éléphant, roi d'une troupe, nommé Chadurdanta. Là, une fois, eut lieu pendant de nombreuses années une grande sécheresse, par laquelle les étangs, les pièces d'eau, les marécages et les lacs devinrent tous secs. Or, tous les éléphants dirent au roi des éléphants, « Majesté, les jeunes éléphants souffrent de la soif. Quelques-uns sont comme morts, et d'autres morts. Cherchons donc une pièce d'eau où ils reviennent à la santé en buvant de l'eau. » Puis Chaturdanta envoya dans les 8 régions du monde, pour chercher de l'eau, des serviteurs pleins de vélocité et d'ardeur. Ceux qui étaient allés du côté de l'est virent un lac appelé Chandrasara, orné de cygnes, de canards et autres oiseaux aquatiques, et embelli d'arbres qui pliaient sous une masse de fleurs et de fruits. Lorsqu'ils l'eurent vu, ils s'en retournèrent joyeux, s'inclinèrent devant leur souverain et lui dirent « Il y a dans une contrée solitaire au milieu de la terre ferme un grand lac toujours plein d'eau du Gange souterrain. Allons-y donc !» Cela fait, après avoir marché 5 nuits, ils arrivèrent au lac. Là, ils se baignèrent tant qu'ils voulurent dans cette eau, et en sortirent à l'heure du coucher du soleil. Autour de ce lac, il y avait dans la terre très molle d'innombrables trous de lièvre, et tous ces trous furent détruits par les éléphants qui couraient de côté et d'autre. Là, beaucoup de lièvres eurent les pattes, la tête et le cou brisés. Quelques-uns moururent, et d'autres ne conservèrent qu'un reste de vie. Lorsque la troupe d'éléphants fut partie, tous les lièvres dont les demeures avaient été pilées par les pieds des éléphants, quelques-uns avec les pattes cassées, d'autres avec le corps brisé, inondé de sang, d'autres dont les petits avaient été tués, s'assemblèrent avec anxiété, les yeux pleins de larmes, et tinrent conseil ensemble. « Ah, nous sommes perdus! Cette troupe d'éléphants viendra toujours, car il n'y a pas d'eau ailleurs !» Par conséquent, nous périrons tous, car on dit. L'éléphant tue en ne faisant même que toucher, le serpent en ne faisant même que flairer, un roi tue même en souriant, le méchant même en témoignant du respect. Mais dit-on donc un moyen d'empêcher cela? Alors les uns dirent, abandonnons le pays et allons-nous-en, car on dit. Qu'on abandonne l'individu pour la famille, pour le village qu'on abandonne la famille, qu'on abandonne le village pour le pays et la terre pour soi-même. Qu'un roi abandonne dans l'intérêt de sa personne, sans hésiter, un pays même prospère, donnant toujours des fruits et produisant quantité de bétail. Ensuite d'autres dirent, eh, ce lieu que nos pères tenaient de leurs aïeux, ne peut pas être abandonné avec précipitation. Cherchons donc un moyen d'effrayer les éléphants, afin que, si le destin le veut, ils ne viennent plus du tout. Car on dit, un serpent même qui n'a pas de venin doit déployer un grand chaperon. Qu'il y ait du venin ou qu'il n'y en ait pas, le gonflement du chaperon inspire la terreur. Puis d'autres dirent, si c'est ainsi, il y a un grand moyen de leur faire peur, de manière qu'ils ne viennent pas. Et ce moyen de terreur dépend d'un messager adroit. C'est que notre souverain, le lièvre, nommé Vijayadatta, habite dans le disque de la lune. Qu'on envoie donc un faux messager auprès du roi de la troupe. Et il faudra dire, la lune te fait défendre de venir à ce lac, car mes serviteurs habitent autour de ce lac. Quand on lui aura ainsi parlé en termes auxquels il pourra ajouter foi, peut-être cessera-t-il. Ensuite d'autres dirent, si c'est ainsi, il y a ici un lièvre nommé Lambakarna. Il est habile à composer un discours et sait ce qu'un messager a à faire. Qu'on l'envoie là vers le lac. Car on dit, celui qui a de l'extérieur, qui n'est pas cupide, qui est éloquent, qui a beaucoup de science et qui dédaigne de s'inquiéter de l'ennemi, est un bon serviteur pour un roi. Et en outre, si quelqu'un s'adresse à un portier de palais, sot, cupide et surtout menteur, son affaire ne réussit pas. Cherchons donc si, sur ce que nous dirons, il ira. Puis d'autres dirent, ah, c'est bien parlé, il n'y a pas d'autre moyen de sauver notre vie, faisons cela, que l'on cherche Lambakarna et qu'on l'envoie. Après que cela fut fait, Lambakarna s'en alla vers l'éléphant, et voyant aller à l'étang le roi des éléphants entouré de milliers de chefs de troupe, il pensa, une entrevue de ceux de notre espèce avec celui-là est impossible, parce que, comme on dit, l'éléphant tue en ne faisant même que toucher. Aussi, il faut absolument que je me montre à lui dans un lieu imprenable. Après avoir ainsi réfléchi, il monta sur une butte très élevée et inaccessible, et dit au roi de la troupe, Eh, eh, méchant éléphant! Pourquoi viens-tu ainsi par amusement et sans crainte ici au lac d'autrui? Retire-toi donc! L'éléphant, lorsqu'il eut entendu cela, fut étonné et dit « Eh, qui es-tu ? » Lambakarna répondit « Je suis le lièvre nommé Vijayadatta qui habite dans le disque de la lune. Maintenant, je suis envoyé auprès de toi comme messager par le vénérable Chandramas. Tu sais sûrement qu'on ne doit pas faire de mal à un envoyé qui dit ce qu'il convient de dire, car les envoyés sont la bouche de tous les rois. Et l'on dit, lors même que les épées sont tirées et qu'un grand nombre d'amis ont été tués, des envoyés, disant même de dures paroles, ne doivent pas être mis à mort par un roi. Moi que voici, je te dis par ordre de Chandra, comment est-il possible que des créatures, sans considérer la différence entre elles-mêmes et les autres, fassent autant qu'elles peuvent injure à autrui? Car on dit, celui qui, sans examiner sa force et sa faiblesse et celle des ennemis, se met follement à l'œuvre, celui-là désire le malheur. » Après avoir entendu cela, comme on pouvait ajouter foi à ces paroles, l'éléphant dit « Eh, lièvre ! Dis donc l'ordre du vénérable Chandra, afin qu'il soit promptement exécuté. » Le jour passé, répondit Lambakarna, en venant avec la troupe, tu as tué quantité de lièvres. Ne sais-tu donc pas que comme ce sont mes serviteurs, je suis appelé du nom de Sasanka, avec crainte dans le monde. Par conséquent, si tu veux vivre, alors il ne faut pas que même par besoin tu reviennes à ce lac. Tel est mon ordre. À quoi bon beaucoup parler? Si tu ne cesses pas cette manière d'agir, tu en éprouveras de ma part un grand mal. Si tu cesses à partir du jour d'aujourd'hui, il y aura pour toi une grande distinction, car ton corps engraissera par ma lumière, et tu te promèneras à ton aise avec ta suite dans cette forêt, faisant ce que tu voudras. Autrement, j'arrêterai mes rayons. Tu auras le corps brûlé par la chaleur, et tu périras avec ta suite. » Lorsque le roi des éléphants eut entendu cela, il réfléchit longtemps, le cœur très ému, et dit « Mon cher, il est vrai que j'ai offensé le vénérable Chandramas. Maintenant je ne lui ferai pas de résistance. Montre-moi donc vite le chemin que j'aille demander pardon au vénérable. » « Viens seul, dit le lièvre, que je te le montre. »«
Mais, dit l'éléphant, où est maintenant le vénérable souverain Chandra ?»«
Assurément, répondit le lièvre, il est maintenant ici dans le lac, et il est venu pour consoler ceux d'entre les lièvres écrasés par ta troupe qui ont survécu. Quant à moi, je suis envoyé auprès de toi. »«
Eh, dit l'éléphant, si c'est ainsi, « montre-moi donc le souverain que je m'incline devant lui et que je m'en aille ailleurs. »«
Eh, dit le lièvre, viens avec moi tout seul afin d'avoir une entrevue avec lui. » Après que cela fut fait, le lièvre l'emmena quand vint la nuit, le plaça sur le bord du lac et lui montra le disque de la lune au milieu de l'eau. Et il dit « Voici notre souverain. Il est au milieu de l'eau, plongé dans la méditation. Salue-le sans qu'il te voie et va-t'en vite. Sinon, parce que tu l'auras interrompu dans sa méditation, il se mettra encore dans une grande colère contre toi. » Puis l'éléphant barretta et étendit dans l'eau sa trompe, pareille à un bâton. Mais par suite de l'agitation de l'eau, le disque de la lune tournoya çà et là, comme s'il eût été monté sur une roue, et l'éléphant vit mille lunes. Alors Vijayadatta, faisant au mieux l'affliger, se retourna et dit au roi des éléphants « Majesté, hélas, hélas, tu as doublement irrité Chandra.
Pour quel motif, dit l'éléphant, le vénérable Chandra est-il en colère contre moi ?
Parce que, répondit Vijayadatta, tu as touché cette eau.
Puis le roi des éléphants, lorsqu'il eut entendu cela, rabattit ses oreilles, salua avec la tête baissée vers la terre et demanda pardon au vénérable Chandramas. Et s'adressant de nouveau à Vijayadatta, il dit
« Mon cher, il faut prier de ma part le vénérable Chandra de m'être favorable en toutes choses sans exception, et moi je ne reviendrai plus ici. »
Ensuite l'éléphant s'inclina devant lui, le cœur tremblant de crainte, et se mit en route pour s'en retourner. Et à partir de ce jour, les lièvres avec leur entourage vécurent heureux dans leur demeure. Voilà pourquoi je dis, par le nom des grands on arrive au comble de la prospérité. Au moyen du nom de la lune, les lièvres vécurent heureux dans leur demeure. En outre, celui qui désire vivre ne doit pas donner la souveraineté à qui est méchant, fainéant, lâche, vicieux, ingrat, questionneur et babillard par caractère. Et l'on dit, appliqué à la recherche du droit, jadis un lièvre et Kapinjala prirent un méchant pour juge et périrent tous deux.
« Comment cela ? » dirent les oiseaux.
Le corbeau dit : Le chat, le moineau et le lièvre.